Vas-y, Antoine. Entendre une prophétie du prophète Ézéchiel au chapitre 36, les versets 24 à 28. Je vous prendrai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous amènerai sur votre sol. Je ferai sur vous une aspersion d'eau pure et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur neuf et je mettrai en vous un esprit neuf. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit. Je vous ferai marcher selon mes lois, garder et pratiquer mes coutumes. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères et vous serez mon peuple. Je serai votre Dieu. Et un petit peu plus loin, le verset 37b. Je me laisserai chercher par la maison d'Israël afin d'agir en sa faveur. Voilà, c'est avec cette prophétie que je voulais vous accueillir les uns les autres. Si Dieu se laisse saisir comme cela, comme il est dit dans cette, se laisse chercher, comme c'est dit dans cette prophétie d'Ézéchiel, avec la promesse qui est à la clé de cette remarque, eh bien, je pense que nous pouvons saisir qu'il y a là un message d'espérance qui était quand même assez fort et qui vient de loin, évidemment. Alors, bonjour à toutes et à tous, évidemment, et je vous souhaite la bienvenue sur les ondes. C'est ces ondes qui nous réunissent un petit peu. Je sais que, puisque je vous ai entendu un petit peu tout à l'heure, certains sont du bord de la Méditerranée, du Var, de l'Hérault, et puis d'autres de Normandie, de Bretagne, de l'Est aussi, de la Lorraine, enfin bref, et peut-être d'ailleurs, évidemment, nous sommes réunis aussi avec ceux de Châtenay-Malabry, d'Antony et des environs, bien sûr. Voilà, mais nous sommes là tous ensemble pour former un peuple qui marche dans l'espérance, dans la lumière de la présence de l'Esprit et du Seigneur. C'est une grande fête aujourd'hui, c'est la fête des Rameaux, qui rappelle bien sûr l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem et qui inaugure la Semaine Sainte avec Pâques. Tout cela nous rappelle la nouvelle alliance révélant Jésus-Christ, alliance qui nous dit l'amour de Dieu. L'espérance du royaume, bien sûr, pour tous, quelles que soient nos appartenances. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'important à souligner, c'est que dans le message que nous partageons les uns les autres, on ne laisse vraiment personne sur le côté, mais que ce message s'adresse à tout le monde. Alors, à ce titre, j'ajoute, bien sûr, que lorsque nous partagerons la Sainte Cène, chacun chez soi, évidemment, que personne ne se sente exclu. Je dis souvent que la Sainte Cène, elle est d'abord pour ceux qui s'en sentent les moins dignes. Elle est d'abord faite pour eux. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez partager le pain et le vin avec nous à distance, comme ça, chacun chez soi, n'hésitez pas à le faire. Et le tout, c'est de rester dans un esprit de concorde, de reconnaissance, bien sûr, et d'espérance. Voilà, que la grâce soit sur chacun d'entre nous, sans aucune distinction, et que, en ces temps difficiles, la paix du Christ vous accompagne les uns et les autres. Amen. Pour vivre tout cela, eh bien, je vous invite à entendre deux passages de l'Écriture, bien sûr, et avant d'entendre ces deux passages, l'un tiré du prophète Zacharie et l'autre de l'évangéliste Marc, je vous invite à avoir un moment de prière. Père, nous voudrions te remercier avant toute chose pour ce moment de culte, ce moment de partage, pour cette fête des Rameaux, pour ce printemps aussi. Nous voudrions te remercier parce que tu es présent malgré les difficultés que les uns et les autres affrontent à des titres divers, bien sûr. Et nous voudrions te remercier parce que ta parole qui est là est toujours là pour nous nourrir, nous faire vivre, nous redresser, nous remettre sur la route et nous tracer un chemin de joie aussi par ta présence, d'espérance bien sûr, parce que c'est le mot-clé de tous ces jours, bien sûr. Voilà, un moment d'avenir aussi qui est là. À ce titre, je voudrais quand même, Seigneur, te remettre toutes celles et tous ceux qui sont dans la grande difficulté, voire dans le deuil ou dans la maladie qu'il faut affronter avec des moyens qui semblent un peu du bricolage encore, mais dans tous les cas, nous pensons à eux et nous les associons tout au long de ce culte par nos pensées, bien sûr. Amen. Alors, je vous invite à entendre ces deux textes dont je vous ai parlé. D'abord, dans le livre du prophète Zacharie, ce sont deux textes que vous connaissez très bien, j'espère, du moins, sinon il faudra retourner au catéchisme, mes bons amis. Le premier, c'est au chapitre 9, les versets 9 et 10 de Zacharie. « Tressaille d'allégresse, fille de Sion, pousse des acclamations, fille de Jérusalem, voici que ton roi s'avance vers toi, il est juste et victorieux, humble, monté sur un ânon tout jeune. » Il supprimera d'Éphraïm le char de guerre et de Jérusalem le char de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix pour les nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et du fleuve jusqu'aux extrémités du pays. Et puis, en écho, évidemment, de ce texte, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, toujours dans l'évangile de Marc, auquel je suis attaché tous ces temps-ci, puisque, comme je vous l'avais dit dimanche dernier, c'est cet évangéliste que j'essaye d'étudier avec nos catéchumènes par téléphone interposé. Voilà, donc au chapitre 11 de l'évangile de Marc. Les premiers versets. Lorsqu'ils approchent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoie deux de ses disciples et il leur dit « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y entrerez, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a encore monté. Détachez-le, amenez-le. Et si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin et il le renvoie ici tout de suite. Ils sont partis et ont trouvé un ânon attaché dehors près d'une porte dans la rue. Ils le détachent. Quelques-uns de ceux qui se trouvaient là leur dirent, qu'avez-vous à détacher cet ânon? Eux leur répondirent, comme Jésus l'avait dit, et on les laissa faire. Ils amènent l'ânon à Jésus, ils mettent sur lui leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur la route et d'autres des feuillages qu'ils coupaient dans la campagne. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient « Hosanna, béni soit au nom du Seigneur celui qui vient, béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père, Hosanna au plus haut des cieux. » Et il entra à Jérusalem dans le temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme c'était déjà le soir, il sortit pour se rendre à Béthanie avec les 12. Père, ta parole est la vérité, sanctifie-nous Père par ta vérité. Amen. Alors, je reviens sur ces deux textes que vous connaissez, hein, vous les avez reconnus, hein, évidemment. La première des choses que l'on constate, c'est qu'après les ravages de la guerre et de l'exil à Babylone, Zacharie, le prophète, qu'on a lu tout à l'heure, a la vision d'un nouveau règne et d'un temps nouveau. Il s'inscrit en cela dans la grande tradition des prophètes. Je pense au troisième Ésaïe, par exemple, hein, qui voit Jérusalem, hein, qui va rassembler autour d'elle toutes les nations du monde, carrément, tout à fait à la fin du livre d'Ésaïe. Je pense à Ézéchiel, au chapitre 36, qui dit « Je me laisserai chercher par la maison d'Israël, hein, pour agir en sa faveur ». Ou Jérémie 31, avec la nouvelle alliance qu'il y a dans Jérémie, une alliance qui sera inscrite sur le cœur des hommes. Voilà, pour Zacharie en particulier, et comme pour beaucoup de ses prophètes, passe à Jérusalem. Je veux dire, il n'y a pas de problème. Je veux dire, Zacharie, c'est un prophète de la fin de l'exil ou du début du retour de l'exil à Babylone. Hein, donc, on est vers les années 520 dans ces eaux-là, peut-être un peu plus proche de nous, mais enfin, peu importe. Je veux dire, voilà, et ça se passe à Jérusalem. Et c'est ça qui est intéressant avec un roi qui amène la paix. Un roi qui amène la paix dans un contexte qui est très violent d'ailleurs, parce que c'est un contexte très apocalyptique qu'il y a chez ce prophète. Il amène la paix, non pas comme le proverbe latin qui dit « si vis pacem, para bellum », vous savez, si tu veux la paix, prépare la guerre. Non, c'est un roi qui arrive en disant « on va briser l'arc de guerre et le char de combat », je veux dire, et il proclame la paix pour tous. Et ça, c'est intéressant, je veux dire, parce que il y a une sorte d'universalité, évidemment, puisque la paix est pour tout le monde, et vraiment la paix, c'est-à-dire que la destruction des armes de guerre, hein, qui sont là. Et j'ai marqué dans mon texte, entre parenthèses, hélas, on en est bien loin. Je veux dire, j'avais lu une étude de Gaston Boutoul, qui était le fondateur de la polémologie, la science de la guerre, et il avait remarqué que depuis que l'histoire existe, il n'y a jamais eu d'année de paix sur Terre. C'est un peu désespérant, vous me direz, mais ça ne fait rien, il faut quand même, dans ce contexte-là, quand même garder l'essentiel, qui est garder cette espérance que Dieu essaie de nous communiquer. Mais c'est vrai que si on veut préparer la paix, si on veut la paix, il faut préparer la guerre. Je ne sais pas si c'est la bonne formule qu'il faut utiliser. Et c'est vrai qu'on dormirait mieux si tous les généraux du monde cassaient leurs fusils et détruisaient leurs chars d'assaut. Mais enfin, ça, c'est une parenthèse. Ça se passe à Jérusalem, où Zacharie a cette vision, là, brusquement, qui est quand même assez particulière. Jérusalem, c'est le centre de vie pour les Hébreux, pour les Juifs de l'Antiquité, hein. C'est le centre de la vie, c'est vraiment le centre du monde, carrément. Quand on lit Ésaïe, la fin d'Ésaïe, on voit bien que c'est le centre du monde qui est là, c'est le centre d'une révélation, etc., quelque chose de très très fort, comme site Jérusalem, comme encore aujourd'hui, quand on voit toutes les disputes qu'il y a autour de ce qu'on appelle les lieux saints, que ce soit du monothéisme, on est un peu consterné, certes, mais n'empêche que ça montre bien ce que les prophètes avaient dit. Là, on est dans un centre extrêmement important. Je veux dire, et les prophètes, là, vont dévoiler autour de Jérusalem, peu à peu, une religion universelle. Et c'est là que, pour eux, Dieu rencontre désormais son peuple dans le saint des saints du temple, le fond du temple, derrière le rideau qu'il y avait au fond du temple, hein, tant que le temple est debout, bien sûr. Alors ces prophéties sont porteuses d'espoir. C'est ça qui est intéressant finalement. C'est un peu dans des contextes extrêmement difficiles, comme je disais apocalyptiques, hein, à propos de Zacharie ou d'Ézéchiel. Ces prophéties sont un peu comme un tissu imbibé d'eau fraîche que l'on décompose sur le front d'un malade qui a de la fièvre, de la température. Un peu une fenêtre sur l'avenir, une promesse, une vie qui reprend un peu de sens aussi. Qui est donné et beaucoup d'espérance. Je crois que c'est important de voir ça. Ces prophètes, c'est ça qu'ils ont apporté finalement à leur peuple, avec bien sûr l'affirmation du monothéisme. Ça n'a pas de soi. Alors les apôtres, 5 siècles après, ils reprennent cette vision et invitent à la joie. Ils invitent à la joie en racontant l'entrée de Jésus à Jérusalem. C'est une entrée messianique, bien sûr. Enfin, on le sait depuis très longtemps, à la manière des annonces prophétiques de l'ancien temps. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que le fils de David qui entre à Jérusalem, qui est là, le roi, les références qui sont faites à David, notre père, etc. C'est plus de l'ordre d'un titre messianique qu'une succession génétique. Je veux dire, ainsi, Rabbi Akiba, qui est un grand rabbin de l'Antiquité réalise que Bar Kochba, en 133, qui avait fomenté une révolte contre les Romains et donné une certaine indépendance à un petit État hébreu pendant quelques années, Bar Kochba a été acclamé comme fils de David aussi. Voilà. Et en fait, c'est un titre messianique qui dit que y a un nouveau peuple, un nouveau projet, je veux dire. Et le roi qui rentre là, à Jérusalem avec Jésus, il est quand même très très particulier. D'abord, c'est un Messie roi qui est inscrit dans la création et dans l'histoire identitaire. C'est une alliance vraiment avec le monde d'un côté et avec les hommes. Alors, c'est une alliance avec le monde. Je pense à notre synode de l'automne qui posait la création là, comme acte de Dieu, comme étant quelque chose qu'il faut préserver, etc. Il y a eu tout un discours là-dessus. Et quand on lit ce texte, c'est assez intéressant parce qu'il y a l'ânon, il y a le petit âne. L'âne, c'est un animal sympathique qui est passé pour très intelligent dans l'Antiquité. Ça a changé depuis, mais on faisait comme ça. C'est un compagnon de l'humanité depuis 4-5 000 ans avant notre ère. L'âne a été apprivoisé. Alors, il est là, cet âne, vraiment compagnon fidèle, serviteur fidèle aussi, bien sûr, parce qu'il y a multiples usages. Mais il est là aussi avec la nature, les figuiers, les dattiers, les oliviers. Alors, on me dirait d'où ça vient tout ça, mais les betfagés, c'est la maison du figuier. Et Bethanie, c'est la maison des dattes. Voilà, puis il y a les rameaux qui sont là, il y a tout ça, il y a tout un aspect de la création qui est participant de la fête aussi. Et puis il y a Jéricho, ils viennent de Jéricho, c'est un lieu mythique, comme on dirait aujourd'hui. C'est par là que les Hébreux sont rentrés en Palestine avec Josué, à la sortie du désert, après les aventures en Égypte. Et puis Jéricho, c'est le gué de Jéricho, c'est là que Élisée est monté au ciel devant Élie est monté au ciel devant Élisée. Donc c'est un lieu extrêmement important finalement pour les Hébreux qui sont là. Alors cette fête, elle est là, donc cette fête autour de Jésus, avec la création, avec l'histoire du peuple auquel il est fait référence par tous ces lieux, parce que dans l'Évangile, il faut faire attention un petit peu à tout ça, à tout ce qui peut être un petit peu symbolique. C'est vraiment une fête du printemps, c'est bucolique, c'est enthousiaste, c'est joyeux finalement. Mais à regarder un petit peu entre les lignes, il y a quelques problèmes que l'on voit. On s'aperçoit que si Jésus fait face à son destin, maîtrise les événements, comme l'histoire de l'âne qu'il faut aller chercher, il reste silencieux. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ne dit rien. il fait rien de spécial non plus. Et on pourrait se dire, ben, finalement, en entrant à Jérusalem, il pourrait faire un grand discours, hein, après tout. Hein, je veux dire, parce qu'un président est élu, hein, chez nous, il fait un grand discours de remerciement, ou je sais pas très bien, quoi, ou de programme. Voilà, mais non, rien du tout, hein, de tout cela. Il y a un silence qui est un peu pesant, moi, je trouve. Les gens l'acclament comme un roi, je veux, certes, mais en venant de Béthanie, qui est de la maison des dates, c'est aussi la maison de la tristesse. Hein, les études rabbiniques donnent cette double étymologie au mot. Et de la maison du figuier, c'est un petit peu aussi problématique, Bethphagée, parce que le récit qui va suivre l'entrée de Jésus à Jérusalem, c'est justement le récit de la rencontre entre Jésus et un figuier, qui ne produit rien et qui va être séché. Parce que le figuier représente la loi, finalement. Et le figuier représente aussi l'arbre du fruit défendu dans la Genèse, en fait. Et donc, il y a quand même, au niveau symbolique, des choses qui sont un petit peu pesantes, de même que c'est le soir. Jésus arrive le soir, il regarde toujours en silence, il ne dit rien, et il s'en va dans la nuit, hein, comme si la nuit des rameaux préfigurait la nuit du vendredi. Hein. Mais tout cela est masqué, évidemment, par le bruit des acclamations des uns et des autres. Avec cette entrée à Jérusalem, Jésus adresse un message qui n'a pas été compris par la foule. La foule qui voyait en Jésus un roi politique qu'il désirait et non pas celui qu'il faudrait. Hein, ce qu'est Jésus, en fait, c'est le roi qu'il faudrait avoir. Mais c'est bien là le problème des rameaux. Le problème des rameaux, c'est la question qui se pose pour savoir quel est le Dieu que nous désirons et quel est le Dieu qu'il nous faudrait. Le Dieu que nous désirons est conforme à nos fantasmes, à nos projets, peut-être à notre égoïsme, mais le Dieu qu'il nous faudrait n'est pas tout à fait cela. Le roi qui entre à Jérusalem n'est pas un roi politique avec des chars, de l'or, des trompettes, des régiments qui défilent, hein, mais c'est autre chose. Cette entrée à Jérusalem, elle symbolise peut-être celui qui entre dans nos vies. Dans nos vies, discrètement, monté sur un ânon, on remarque pas finalement, ou très peu. Non pas, il n'est pas là pour des conversions de force ou des menaces, et certainement pas, mais par des touches existentielles, des moments privilégiés, des rencontres, et ben il y a quelque chose qui donne de la joie et de l'espérance et qui introduit finalement un règne nouveau. C'est peut-être ça la clé de ce récit finalement, cette entrée d'un roi qui n'est pas le roi davidique du rêve ou du désir inaccessible ou décevant, dire parce que c'est bien souvent le cas, dire dans l'enthousiasme on accueille un roi, un nouveau roi, le roi est mort, vive le nouveau roi il va arriver plein de justice, plein de projets, etc. ou le nouveau président va arriver ainsi, hein, on l'acclame, etc. puis souvent c'est décevant. Et c'est le problème de la tentation. C'est le problème de la tentation qui se passe là. Vous savez que dans l'évangile de Matthieu, lorsqu'il y a ces récits de la tentation qui sont beaucoup plus courts chez Marc, mais chez Matthieu, le diable se retire et il attendra une autre occasion. Ben, cette occasion, elle arrive. Ça va être la passion. Hein, c'est le moment où, dernièrement, tout à fait à la fin, on va tenter Jésus pour qu'il prenne le pouvoir. Ça y est, ce roi va être le roi davidique, hein, le grand roi qui va arriver, qui va faire plier toutes les nations, qui va imposer la force, l'orgueil, etc. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas ce roi-là, c'est le roi Messie, qui tel Jésus, qui n'est pas le roi d'un rêve ou d'un désir inaccessible, mais c'est le roi de la réalité du quotidien. Et c'est ça qui est très fort, me semble-t-il. C'est une rencontre sereine, c'est une rencontre qui est activée par l'esprit, c'est un signe, tout simplement, un signe pour les nations, comme le dit le prophète Ésaïe dans le chapitre 66. C'est une rencontre qui va nous surprendre souvent, qui peut nous décentrer, qui questionne, qui construit, qui remet en cause surtout. C'est quelque chose qui fait vivre finalement. C'est vraiment ce dont on a besoin au final. C'est de la vie qui se partage là. Et ça se fait dans la simplicité, précisément. Ça se fait précisément parce qu'il y a un ânon qui nous dit que ben, c'est ça qu'il faut chercher. C'est de ce côté-là qu'il faut chercher le royaume de Dieu, là, hein. Parce que ce règne qui est inauguré, là, ce règne de Dieu qui est inauguré, c'est le règne de l'amour de Dieu. C'est le règne d'une force qui s'exprime dans la faiblesse des hommes. C'est le règne d'une parole qu'on entend dans le silence. C'est le règne d'une écoute qui arrive à percer le bruit ambiant. C'est le règne d'une présence quand il y a de la solitude. C'est le règne d'une espérance et d'une lumière dans la nuit. C'est ça la fête des rameaux. C'est Jésus qui entre à Jérusalem comme il entre en fête chez nous. Et c'est ça que cache le cri de la foule, que cachent les rameaux, que cachent les vêtements qui sont mis à terre ou sur le dos de l'âne de Jésus. C'est tout ce bruit qui cache cette force du royaume. Et c'est ça, la fête des rameaux. Jésus entre à Jérusalem, il entre surtout dans nos vies, pour nous faire vivre et nous donner l'espérance. Amen. Voilà, Père. Nous voilà au moment de ce partage de la Sainte Cène, qui nous rappelle évidemment tous les partages que tu as pu faire avec les uns et les autres, toute cette vie qui a été là et dont tu as été le témoin. Au cours de la Sainte Cène, tu as réuni autour de la table tous tes amis. Il y avait sans doute autour des 12 disciples encore d'autres personnes qui étaient là pour être avec toi pour ce dernier repas. Et nous sommes là aujourd'hui, les uns et les autres, avec des distances considérables qui nous séparent en ce qui concerne la géographie, mais nous sommes toutes et tous bien proches en esprit, autour de ta présence spirituelle, autour d'une même espérance aussi, autour d'une même vie finalement que nous voudrions créer et recréer selon ta volonté. Père, nous fêtons les rameaux aujourd'hui. Nous fêtons ton entrée à Jérusalem et nous fêtons aussi l'accueil que nous te réservons quand tu entres chez nous pour nous surprendre et pour nous reconstruire et nous faire vivre et nous donner d'espérance. Que ce partage puisse être vraiment un grand moment d'espérance et de communion. Amen.
Amen.
Alors, le témoignage de l'Écriture nous dit cela dans l'Évangile de Marc au chapitre 14, les versets 22 et suivants. Pendant le repas, Jésus prit du pain et après avoir prononcé la bénédiction, il le rompit et le leur donna et il dit, prenez, ceci est mon corps. Puis il prit une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna, ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. En vérité, je vous le déclare, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau dans le royaume de Dieu. Père, que par la puissance de ton esprit, nous puissions réaliser qu'à travers ce partage du pain et du vin ou du jus de raisin ou d'autres choses finalement, peu importe, mais qu'à travers ce passage, ce partage, nous puissions réaliser que tu es présent au cœur de nos vies, en esprit et en vérité, que tu es présent au-delà du temps et de l'espace, que tu es présent pour le passé, pour le présent et pour le futur. Que tu es présent pour un projet de vie attaché à chacune et chacun d'entre nous, quelle que soit son appartenance. Il est bien dit dans ce texte que le sang de l'Alliance est versé pour la multitude, c'est-à-dire que le monde entier est là, sous ton regard, et au bénéfice de ta vie et de ton message. Merci, Père. Merci, Père, pour cette fête des rameaux. Merci, Père, pour frapper à nos portes, afin que nous puissions ouvrir la porte, comme il est dit dans l'Apocalypse, et que nous puissions te recevoir. Amen. Alors, le pain rompu, c'est bien le signe du corps du Christ qui est donné pour tout un chacun. C'est un corps symbolique qui se multiplie à l'infini pour que tout un chacun puisse en vivre en plénitude. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce, c'est la coupe au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le signe d'une alliance nouvelle, universelle, passée par Dieu pour les hommes, pour que le monde vive. Amen. Et je vous invite, en entendant les chœurs de l'oratoire du Louvre, je vous invite à partager, à consommer, peut-être dans votre cuisine, ou votre salle à manger, ou votre salon, je ne sais pas, ce pain et ce vin que vous avez les uns et les autres apporté, que nous partageons les uns avec les autres, tout à fait symboliquement, mais vraiment dans une même unité, une même espérance. Amen. Antoine, on y va? Certain que certains d'entre vous ont dû fredonner le cantique en même temps que la chorale de l'oratoire. Bon, ceci étant dit, je vous invite à avoir un moment de prière. Et vous m'entendez toujours?
Oui.
Non, oui.
C'est bon. Voilà, donc j'invite à prier Dieu. Père, merci pour ce culte qui casse la solitude et l'angoisse. Père, nous te remercions pour le printemps, pour la nature qui se pare de couleurs et de lumière, moment de grande fête chrétienne, porteuse d'espérance. Mais surtout, nous te prions pour te remercier aussi pour les gestes de solidarité modestes, quotidiens ou spectaculaires. Ils nous disent le royaume dont nous avons parlé, et ils illustrent l'espérance dont ta parole est l'écho. du fond de nos maisons, à nos fenêtres, dans nos jardins. Nous pensons à ceux qui sont touchés par la maladie, ceux que nous connaissons, dont on parle, et puis tous les autres, les SDF, les Roms, les réfugiés habitants de bidonvilles et tant d'autres. Nous n'oublions pas les isolés, les fatigués de la vie incompris et les angoissés. Père, bénis les uns et les autres, ainsi que ceux qui prennent en charge tous ces malheureux et tous ces malades. Bénis ton Église, qu'elle soit porteuse d'espérance et de joie. Et je vous invite à partager le Notre Père, que nous pourrons peut-être fredonner ensemble, ou dire ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Chers amis, recevez la bénédiction. Oui, que le Dieu qui entre à Jérusalem par la grande porte, ou qui rentre dans nos vies, puisse vous bénir les uns et les autres. Soyez sûrs que la paix dont il est porteur est vraiment sur vous. C'est une plénitude. C'est une plénitude qui nous porte au-delà de nous-mêmes, qui nous décentre, qui nous fait vivre et qui nous ouvre les portes de l'espérance. Alors toutes et tous, vous auditeurs et toutes celles et tous ceux auxquels vous pensez, allez dans la paix du Christ. Amen. Voilà, j'espère que vous m'avez entendu jusqu'au bout.
Oui, oui.
Oui. Non, oui. Bon. Parce que comme je n'entends rien oui. du tout, je ne sais pas du tout où j'en suis.
Bon, voilà, j'ai réactivé tout le monde, donc tout le monde peut parler. Bon.
Alors oui, je voulais dire quand même que jeudi soir, le jeudi saint, et le vendredi soir, le vendredi saint à 19h, nous aurons deux cultes, évidemment. Mais faites attention, si le numéro d'entrée est le même, le code n'est pas le même pour le jeudi et pour le vendredi. Hein, voilà. Ben, écoutez, d'ici là, j'espère que vous irez tous très très bien. Et évidemment, autant que faire se peut, vous supporterez bien, là aussi, autant que faire se peut, le confinement. Mais je crois qu'il faut être vigilant si on veut véritablement lutter contre ce fléau qui nous frappe toutes et tous, évidemment. Voilà, écoutez, je vous souhaite envers et contre tout de bonnes fêtes des rameaux. Comme je disais, hein, c'est une belle fête de printemps, il fait très très beau. Mais écoutez, profitez un petit peu de ce soleil si vous en avez l'occasion. Hein, que vous soyez du midi, de l'est, de l'ouest ou du nord de notre pays, véritablement, je veux dire, passez un très très bon dimanche, et puis vous verrez, j'espère vous entendre dire bonjour sans trop savoir qui parle jeudi prochain à 19h avec ce nouveau code d'entrée. Voilà, bon dimanche à merci. Toutes et à tous.
Merci
Vincent.
Voilà.
Merci.
Merci.
Au revoir. Merci. J'espère que vous avez bien entendu.
Hein. Oui.
Il y a eu ça. Bon. Juste un peu oui, au niveau de la musique, mais c'est tout.
Voilà. C'est à un moment donné où j'ai raccroché carrément moi-même pour refaire le numéro, vous voyez.
Ah, c'est ça. D'accord.
Il y a un moment donné où j'étais plus là.
Je me demandais un peu où tu étais passé, justement.
Mais voilà, j'avais raccroché parce que j'entendais plus rien, ou des crachouillis, enfin bon.
Bon dimanche à tous.
Voilà, merci. Bon dimanche.
Voilà, au revoir. Allez,
bon dimanche à tous.
Au revoir.
Bon dimanche.
Merci d'avoir été présent. Voilà, bon dimanche.
Merci, bon dimanche.
C'est bon, à bientôt. Merci Antoine pour la technique, parce que c'est pas évident. Je sais pas ce qui s'est passé, mais enfin,
on progresse.
On progresse bien. Voilà, on progresse bien. Jeudi, on va être au point. Voilà.
À bientôt. À jeudi.
C'est bon. À bientôt. Allez, salut Antoine et merci.
Merci Vincent, bon dimanche.
Bon dimanche.
Salut Vincent.
Oui, salut.
Vincent avec un T.
Oui, non, mais je reconnais les voix des différents Vincent. C'est bon.
D'ailleurs.